Mesdames et messieurs, la cour. L'avocat, c'est monsieur Louis Rigaud. Procureur général de la République, Pierre Étrolle. Et le président Claude Hilaire.
Un, deux, trois, quatre.
Nous sommes le tribunal, n'entend pas dans le journal, qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames, avec nous pas d'innocents. Tout le monde est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits.
L'audience est ouverte. Huissier appelé.
Le ministère public contre Léo Ferré.
Léo Ferré sera jugé par 5 jurés tirés au sort, huissier procédé.
Alors nous avons Jean-Jacques Delebar de Waterloo dans le Nord, Lucien Loubet de Paris, Daniel Coffre de Montrouge, Ariel Verlin de Lyon et Alain-Charles Ifri de Levallois.
Léo Ferré donc va être jugé par ces 5 jurés, mais nous allons procéder à son interrogatoire. Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Ferré Léo Albert Charles-Antoine. Né le... Vous regarderez le Larousse.
Vous êtes dans le dictionnaire. Bravo.
Artiste.
Prouvez-le. C'est-à-dire que vous allez chanter une chanson de votre dernier disque. Et exceptionnellement, nous vous avons accordé la grande faveur de chanter avec la bande orchestre de votre disque.
Et pourquoi ?
Voilà, c'est ça.
Monseigneur.
Oh, c'est comme ça qu'on dit. Monsieur le Président.
Excusez-moi. C'est un disque, j'ai fait 5 pianos, moi.
Mm-hmm. Du re-recording, comme ils disent en français.
Ce qui tue les musiciens, d'ailleurs.
Oui.
Je leur ai dit un jour. Et avec un orgue. Il m'était difficile de...
De faire tout ça en même temps, oui.
Faire tout ça en même temps. Et
alors, voilà. En avant-première, Léo Ferré, qui chante une chanson de son nouveau disque, ça s'appelle « Marseille ».
Oh Marseille, on dirait que ta voix a changé. On dirait que la carte partait l'Indochine en se prenant pour toi dans le riz délavé. Te pleure avec du sang et que l'âme marine. Oh Marseille, on dirait que la mer a pleuré tes mots qui dans la rue se prenaient par la taille et qui n'ont plus la même ardeur à se percher aux lèvres de tes gens. Que la tristesse empaille. Oh Marseille, on dirait que Notre-Dame en fleurs s'est penchée dans le port pour boire à ton eau verte, qu'elle voyait briller comme brillent les pleurs aux yeux de tes marins que l'absinthe déserte. Oh Marseille, on dirait que le vent t'a vaincu dans la miséricorde où la vallée le traîne et que de ce mistral qui glace ta vertu il ne reste qu'un peu d'accent qui se promène. Oh Marseille, la vie a porté sur ton dos tout ce nord qui proteste en moquant la musique qui monte de ta gorge accrochée à tes mots, les mêmes que là-haut dans les steppes plastiques. Oh Marseille, on dirait que flottent des drapeaux qu'une toile impudique a fauché dans des voiles et les bateaux perdus qui croisent sous ta peau se souviennent de toi dans la gorge des squales. Oh Marseille, on dirait que les saisons se noient dans ton ciel portuaire où la lune s'affaire à compter les bateaux qui lui parlent de toi jusqu'au galion perdu qui se croit nucléaire. Ô Marseille, on dirait que le peuple et le roi ne savaient plus quoi dire et ne savaient que faire quand bouillait la colère. Et 89 fois, ils ont mis sur ton nom une chanson misère. Ô Marseille, on dirait que Shakespeare a l'accent, qu'il a quitté son Angleterre et ses manières, qui t'apportent une rose et Joliette dedans, avec des Roméo grimpant, des canebières. Ô Marseille, on dirait que le cœur te va bien, comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire. Ange, ferai débarquer à Marseille hier matin. On débarque toujours les amours passagères, mais qu'importe ton ciel qui se prend pour l'Orient, qu'importe ton parler avec ces mots épiques, ces mots qui sortent faire un tour avec l'accent, ces mots qui ne sortent pas de Polytechnique. Oui, mais quel mot Marseille, oui, mais quel mot Marseille, oui, mais quel mot Marseille. Quand tu mets ta musique, oh, 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 Marseille, Marseille, on dirait que le cœur te va bien, comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire. Ange, ferai débarquer à Marseille hier matin, j'entends mourir et remourir un chant lointain. Marseille, Marseille, je t'aime.
Léo Ferré, vous êtes inculpé de tentative de subversion et d'incitation à la révolte.
Je plaide coupable.
Oh, monsieur le président, s'il vous plaît.
Merci, maître, merci.
De rien.
Vous pensez justifier donc ce double chef d'inculpation, Léo Ferré ?
De mon œuvre, justifie.
Oui.
Mon œuvre entre guillemets, attention.
Je vais rappeler que vous êtes né un 24 août à Monte-Carlo.
Oui.
J'ai la date. Si vous m'ennuyez, je la donne. Et vous êtes fils de Joseph Ferré, directeur du personnel du casino de Monaco, et de madame née Charlotte Scotto. Vous êtes marié, vous avez trois enfants. Vous avez
fait m'excuse, les... monsieur le duc. Ah, pardon, monsieur.
Non,
président. Président.
Je regrette. Rarement, je suis dans des endroits pareils, oui. Alors, je ne suis pas tellement au courant. Vous avez dit Charlotte, non, c'est Marie-Charlotte.
Marie-Charlotte.
Oui, parce que mon père s'appelait Joseph, ma mère s'appelait Marie, et ça s'est arrêté là.
Ah bon, ouais. Très bien.
Je dois ajouter que ma femme, maintenant, qui m'a fait mes trois enfants, s'appelle Marie, oui, et que son père s'appelle Jésus, vous voyez.
Ah bah ça va bientôt être l'anniversaire, alors.
Voilà.
C'est bien. Vous avez fait des études à l'école des frères des écoles chrétiennes, d'ailleurs.
Ah bah décidément.
Voilà. Au collège de Bordighera, au collège Saint-Charles, à la faculté des lettres de Paris, à l'école libre des sciences politiques, et vous êtes diplômé d'une licence S-lettres.
Non.
Ah.
C'est faux, ça. Je suis bachelier en droit. Je ne suis jamais arrivé à passer la troisième partie de... à avoir la licence en droit. Cela dit, je suis... je m'excuse de donner ces détails dont je suis un peu honteux, je dois dire.
Mais non, mais non.
Que je suis diplômé de la section administrative de l'école libre des sciences politiques 27 rue Saint-Guillaume à Paris.
Et vous deviez vous destiner à quelle carrière, alors, avec de tels diplômes ?
Oh, vous avez fait ça, vous savez, moi, je suis un musicien, donc j'étais déjà un bandit, quoi. Hein, mm-hmm. Pas encore poursuivi parce que pas connu. On me disait autour de moi, il faut pas, la musique ne nourrit pas un homme. Mais un jour, j'avais 12 ans, j'avais dit à mon père, trouve-moi une qui me nourrisse. Alors évidemment, il m'a foutu une baffe. Et puis après, je me suis caché. Et un jour, ma sœur faisant ses études pour être dentiste, mon père m'a dit que si tu veux faire... Ah, j'ai dû faire comme ma sœur, pour faire quelque chose, vous voyez, pour qu'on ne m'ennuie pas. Et je suis resté 3 mois chez un copain à moi qui était dentiste pour faire un stage. Et un jour, il m'avait dit, tiens, tu prends ça, Léo, il y avait un client que je connaissais d'ailleurs, tu prends cette seringue, tu vas la piquer comme ça, et puis l'éloigner comme ça, c'était déjà du spray, n'est-ce pas ? Déjà. Et alors, je sais pas, je me suis trompé, j'ai mis dans les yeux, alors il m'a couru dans l'appartement. Il m'a couru partout dans l'appartement, alors que je suis parti, n'est-ce pas ? Et l'année d'après, je suis allé à Paris pour faire les études de droit.
Alors, vous êtes donc inculpé, pardon, je me rappelle, de tentative de subversion et d'incitation à la révolte. Comment est venu ce goût d'inciter les autres à se rebeller dans les chansons ? Comment en êtes-vous venu à menacer l'État français ?
L'État français, oh non, c'est l'État français, pour moi, ouais, c'est pas grand-chose. Mais je dois dire, alors je vais vous dire, parce que moi je devais être un peu comme ça, dans le ventre de ma mère, je devais déjà dire non, vous voyez ? Hein, façon ouais. De parler. Imaginez qu'un maître d'hôtel me dit un jour, j'avais 20 ans, je sais pas, il me dit, tu sais Léo, la prochaine fois, si ça m'arrive de renaître à nouveau un jour, quand je sortirai du ventre de ma mère, je regarderai par terre, et s'il n'y a pas de moquette, je rentre.
Qu'est-ce qui vous révolte dans ce qui est autour de vous, Léo Ferré ?
Il y a des tas de choses qui me révoltent. Mais quand on pose la question, je ne trouve pas. Alors j'ai dit, je vais rentrer chez moi, je vais écrire un papier. Vous savez, comme un jour, j'étais avec un copain, on était très jeunes, on avait écrit des injures, vous savez, une sorte de truc terrible qui n'en finissait plus. Vous savez. Alors c'était un petit papier qui était long comme ça, et chaque fois que quelqu'un nous emmerdait, ça durait un quart d'heure parce qu'on disait des trucs comme ça. Et ce qui me révolte, bon, ce sont les gens qui sont plutôt assis à genoux que debout, quoi. Voilà. C'est pas difficile d'être debout. Hein. Moi, je dis que, oui, ça ne vous gênera pas si je vous dis qu'un homme ne devrait se coucher que pour mourir, non ?
Et pour aimer.
Ah, on peut faire un tas de trucs allongés. Hein.
Non, on ne veut pas vrai. Le savoir, procureur.
Mais ça peut se faire debout aussi, monsieur le procureur. Oui.
Bien sûr.
Vous avez déclaré au journal Le Matin, le 19 décembre 1977, « Je viens de voir un punk, mon premier punk. Il m'a dit avoir 18 ans. Je lui ai répliqué, « Ces jeunes-là sont vieux et tristes. » À l'image de notre époque où la science a les pieds dans le 22e siècle et où la morale et les lois sont du 17e siècle, ceux qui nous dirigent sortent de l'ENA et de l'ENM, l'École nationale des médiocres. Je vous rappelle d'ailleurs que ENM, ça veut dire aussi École nationale de la magistrature.
Coïncidence.
Bien sûr, certainement.
J'assume.
Vous assumez ? Oui. Vous pensez que les jeunes qui s'habillent en punk, comme vous dites, ne sont pas des gens respectables ?
En général, tous les gens sont respectables, hein, mm-hmm. pour moi. Je veux dire qu'il y a beaucoup de bruit autour de ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ces gens, ils sont parfaits. Ils font 17 ans, 18 ans, il y a un type en Belgique un jour qui chantait dans un chapiteau, il est venu derrière, il n'y avait pas de loge, alors j'étais derrière le chapiteau avant d'entrer pour chanter. Et il me dit, alors tu viens chanter dans la rue ? J'ai dit non, parce que je n'ai pas le droit de chanter dans la rue. J'ai le droit de chanter dans la rue, il faut que je demande une autorisation de Camelot, vous êtes au courant. Hein ? Bon. Alors il me dit, mais quand même, j'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, de toute façon, si je dois chanter, il faut que quelqu'un paye, pas cher, mais pour aller dans un spectacle. On paye quand tu veux, c'est tout à fait naturel. Il me dit, alors tu es dans le système ? J'ai dit oui, préférence le système solaire, toi aussi. Alors je lui dis, mais alors toi, qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, je fais la manche. J'ai dit, petite ordure. Hein ? Et quand tu fais la manche, le mec qui passe et qui se prend à ton jeu, qui donne 100 balles comme ça, dans quel système il est lui ? Hein ? Vous comprenez ?
Oui, oui.
Bon. Alors, ce sont des rencontres qui me font dire des choses pareilles. Cela dit, il peut y avoir un punk, comme on dit, un type formidable, évidemment, bien sûr. Vous savez, on assassine que les gens qu'on connaît. Hein.
À la question du juge d'instruction, pour quelle faute avez-vous le moins d'indulgence ? Vous avez répondu, qu'est-ce que la faute ?
Ah ouais.
Vous n'avez pas la notion de commettre parfois des erreurs, des fautes ?
Oh, il y a des choses qu'on fait. Vous savez, c'est toujours quand on grignote l'autre. Et quand on attaque l'autre, quand on essaie d'avoir quelque chose par un autre. Alors, ça, c'est pas bien. Mais la faute, c'est un côté religieux. Et... Vous savez, on n'a pas besoin de vous dire, vous avez fait une faute, si vous avez vraiment fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Vous comprenez ? Parce que la faute, ça se rachète. En définitive, moi, la faute, ça ne se rachète pas.
Vous auriez de l'indulgence pour les voleurs, pour les assassins ?
Alors, moi, les assassins, ça je ne peux pas supporter parce qu'on n'a pas le droit d'aller... descendre quelqu'un comme ça, je trouve ça dégueulasse. Les voleurs, ça peut se justifier des fois. Moi, j'aime bien, je suis beaucoup d'admiration pour les types qui prennent des risques sans tuer personne et qui vont faire des hold-up gigantesques dans les banques. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais c'est votre argent aussi, quelquefois, qui est dans ces banques.
Et même si c'était mon argent, tant pis.
Vous êtes assuré?
Non. Non. Oui, alors vous pensez à des choses, monsieur le duc. Okay. Non, pardon, monsieur le président. Auquel je ne pense pas. Hein.
Ah, vous pensez pas à ça?
Ah non, jamais.
Pourtant, à propos de violence, vous avez déclaré un jour au journal Combat, le 30 avril 1954, à propos du monde du spectacle, il faut tuer tous les intermédiaires. C'est une question de mitraillette. Je ne suis pas un criminel, mais j'en tue un bon sang tous les matins en me levant. Ça ne leur fait pas beaucoup de mal, je suis un tueur mental.
Mais oui, mais combien il y aurait d'assassins s'il n'y avait pas le gendarme, monsieur le président?
Ah, c'est bien, hein? En plus, c'est vrai.
Eh, alors?
Alors vous, l'anarchiste, c'est vous qui dites ça?
Ah non, mais ça n'a rien à voir avec l'anarchiste, ça. L'anarchiste, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne.
Larousse, y compris du gendarme.
Petit, 1930. C'est là. D'ailleurs, allez essayer de voir ça dans la Larousse maintenant. Ils mettent plus ça. Hein? L'anarchie, bordel dans la rue, machin, l'indication de l'État, tout ça. Mais la négation de toute autorité, d'où qu'elle vienne, c'est un sentiment aussi noble que l'amour. C'est pour ça que j'avais dit un jour, pour faire un disque, anarchie avec un grand A comme amour. Voilà. Maintenant, l'histoire que vous dites là, qu'est-ce que vous disiez d'ailleurs?
Que vous vouliez tuer, que vous vouliez tuer les intermédiaires et que tous les matins vous en tuez.
Ah oui, mais toujours, pas tuer. Quand on dit celui-là, il faut le tuer. Bon, bien, personne ne tue jamais personne. Il faut m'en supprimer les intermédiaires, vous comprenez? On se plaint, on se plaint des... Comment on les appelle? On peut dire les macros, par exemple. C'est pas supportable pour moi. Hein. Cela dit, ils habillent les filles. Je sais pas, mais ils leur donnent à manger un peu, de temps en temps, ils les sortent. Et vous savez qu'ils sortaient venir me voir, moi. Hein.
Ah bon?
Ah oui.
Vous avez un public de proxénètes?
Oui. Le dimanche. Vous savez que j'étais dans un cabaret. Oh, j'étais dans un cabaret, moi, qui s'appelait là. Qui avait un sale mot d'ailleurs, la tête de l'art, ouais, ouais. C'est con. Hein. Bon. Et un soir, je sors, après avoir chanté, et il y a un type qui me dit, prenez un verre avec moi. Il était un corse. Hein. Je dis oui. Bon, parce que le type, il est souriant, puis pas faire le type qui dit, vous savez, je réponds toujours aimablement aux gens. Hein. Bon. Et alors, le type, je bois un verre avec lui, et puis on parle, je sais pas, il me dit, j'aime bien ce que vous faites, je sais pas. Ouais. Je ne suis pas resté longtemps, j'ai dit, je m'excuse, monsieur, il faut que je rentre me coucher. Et il me dit, écoutez bien, hein, monsieur Ferré, si vous avez besoin de quoi que ce soit un jour, vous demandez monsieur Antoine. Et vous savez qui c'était? Antoine Guérini, qui s'est fait assassiner d'ailleurs.
Oui.
Eh bien, je trouve que ce type, je n'ai jamais été le voir pour lui demander quoi que ce soit, bien sûr. Mais je me suis dit, ben, ce type, il est de mon côté, c'est pas mal, quoi. C'est pas une ordure, quoi. Merde,
hein. Les truands, protecteurs des arts et lettres, c'est...
Et pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ouais. Ça existe,
d'ailleurs. Vous connaissez les protecteurs des arts et lettres, vous?
Mais vous avez envie d'être violent par moment? De frapper, de taper, de tirer?
Frapper, non. Non, mais de gueuler, oui.
De gueuler,
oui. Des fois, j'arrive, ça, je gueule, oui.
Maître Rego, une question à votre client.
Oui, à un moment donné, vous aviez fait une expérience du côté du rock avec un groupe Zoo.
Oui. Hein?
Vous n'avez pas envie de remettre ça?
Moi, je voulais faire avec un groupe extraordinaire. Il est beaucoup plus difficile de rencontrer Pink Floyd que de rencontrer Brejnev, vous voyez.
Ah bon?
Oui.
Vous croyez qu'aujourd'hui, les gens de la musique rock...
Ah non, c'est pas, parce que c'est pas eux, hein. Il y a des tas de barrières, des tas de gens qui s'occupent d'eux, comme ça.
C'est dommage que Brejnev, il joue comme une savate, hein.
Ouais. Non, mais il conduit bien.
À propos des stars, à propos des autres vedettes de la chanson, vous avez déclaré « Je n'écoute aucun autre chanteur, personne n'a d'importance à mes yeux que moi, je suis la seule institution que je respecte. » Vous avez déclaré ça?
Mais enfin, comment vous imaginez que j'ai pu déclarer une chose pareille?
C'était dans Paris Presse le 18 mars 1965.
Et c'était signé. Il n'y a pas le... Donne-moi la référence totale.
Je vous donnerai la référence.
Le mec, non, le mec qui a signé ça.
On va le retrouver, puisqu'on a extrait ça d'un journal. Nous allons procéder à l'audition des témoins, huissiers appelés.
Et nous appelons tout d'abord à la barre Boris Santef.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Boris Santef, 27 ans, artiste de variété.
Eh ben, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, levez la main droite et dites je le jure.
Je jure.
Reprenez votre souffle. Alors, Boris Santef, vous êtes donc auteur, compositeur, chanteur. Donc, un peu, vous êtes collègue. Est-ce que vous vous sentez vraiment collègue de Léo Ferré?
Bah oui, je veux dire, je chante, je fais mes chansons, je vais me produire en scène, je fais des disques. J'en vends pas encore beaucoup, mais enfin.
Mais ça va venir. Vous avez...
Alors, bon, on fait le même métier, je crois. Ouais.
Vous avez rencontré les mêmes difficultés que Léo Ferré à vos débuts ?
J'en rencontre toujours, moi. Je veux dire, je sais pas s'il en rencontre encore aujourd'hui, sûrement. C'est un métier qui peut-être qu'a changé. C'est un métier difficile, c'est vrai, oui. Alors les difficultés, bah.
Mais je veux dire, le côté, on vous ferme la porte au nez, on vous dit, oh non, c'est pas, non, non, pas vous. Ça arrive souvent.
Non, bah, on m'a jamais fermé la porte. Au contraire, on me l'a ouverte. J'ai fait des disques, enfin, j'en ai fait deux. Et puis, la porte est toujours ouverte. C'est à moi d'assurer, quoi.
Donc, vous vous sentez responsable de ce que vous faites.
Absolument, oui.
Qu'est-ce que vous pensez de l'inculpation qui est celle de Léo Ferré ?
Oh, bah, je voudrais raconter une histoire. Voilà, j'étais un adolescent qui coulait des jours paisibles chez ses parents. Enfin, j'étais fiancé avec une demoiselle. On écoutait de la musique anglo-saxonne complètement idiote. Et puis, un jour, on m'a offert un disque de Léo Ferré. Et puis, dedans, c'était marqué « Votre pote », enfin, c'était même chanté « Votre pote, Marie-pote est coincée ». Ça a été la rupture, ça a foutu un scandale, la subversion. Ouais, alors, voilà, c'est un petit exemple, quoi. Et puis, je sais pas, je relevais dans un livre, là, enfin, pour le voleur que tu recouds de ton chandail, tendre et rouquin, pour les portes, alors, l'abbaye du Mont-en-l'air, oh, l'abbaye du Mont-en-l'air, quand même, le rhum que tu lui conseilles, vas-y, et le mégot, je sais pas, enfin...
Donc, incitation à la consommation de produits alcoolisés, de drogue, de tabac...
Monsieur le Président, je vais vous dire une chose, je vais prendre ma main droite et la rabaisser, c'est un faux témoignage.
Mais ce sont ceux qu'on préfère. Ce sont les plus sûrs, les
avec
faux témoignages.
Noms, si possible.
Eh bien, on va écouter un témoignage en musique de Boris Santeff. Vous allez vous mettre au piano à la place du brigadier Rabol. Et je voudrais dire qu'on pourra vous voir, vous, et ce serait bête de rater ça, le 31 janvier à Agen, et le 10 février à Valence, et le 14 mars à...
Meudon.
À Meudon.
Je voudrais préciser que la chanson que je vais chanter s'intitule « Musique, Monsieur Léo ». Monsieur Léo, quand j'ai entendu vos chansons la première fois chez un ami, j'étais un tout petit bout transi. Mais oui, je cherchais mon vocabulaire dans le fin fond de ma nuit. Chez vous, il y avait de la lumière. Je suis rentré, je me suis permis. J'ai trouvé là un journaliste occupé à faire l'inventaire, planqué sagement entre deux disques. Il faisait des heures supplémentaires. Monsieur Léo, avant d'affronter la grande scène au cabaret, j'ai galéré lors de ma première parisienne. Le journaliste, je l'ai retrouvé, m'a dit que j'étais influencé, mais que si je n'avais pas copié, il y avait du vous dans mes refrains. Rassurez-vous, je le prends très bien. Oh, monsieur Léo, si j'avais la moitié de ton verbe et le sang qui coule sous ta peau, je deviendrais l'homme de ma vie. Je passerais peut-être pour un poète. Monsieur Léo, mon éditeur qui est un gripsou me fait la morale au rendez-vous. Mes aventures de la rue Blondel, paraît que ça n'intéresse personne. Non, non, je serai distribué rue Saint-Denis, ma carrière sera dans les choux. Mais comment me faire une clientèle si je ne montre pas mes dessous, oh. Monsieur Léo, voilà le pauvre homme qui s'abandonne, qui gesticule sous son bureau et qui, pendu au téléphone, sacrifie nos chants les plus beaux. Monsieur Léo, vous nous avez laissé des traces, un coup de griffe, un coup de patte, des cicatrices que je caresse du bout des doigts. Quand je vous aime, quand je vous aime, vous êtes au mur, je vous engueule, sur la hi-fi, un cri tout seul, vous avez mal et j'entends tout quand vous partez. Emmenez-nous, s'il vous plaît. Monsieur Léo, quand j'aurai fini ma chanson, il y aura peut-être des explications. Des gens seront pour, des gens seront contre, et je sens que je vais me donner raison. Allez, musique, musique pour vous, monsieur Léo. Symphonique pour vous. Di da da di da da di 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 da da di di di.
vous.
Boris Santeff. Boris Santeff, c'était donc un témoignage, non pas à charge, enfin je ne sais pas comment l'a pris Léo Ferré, mais c'était plutôt un témoignage à décharge. Vous acceptez cet hommage, alors, Léo Ferré ?
C'était très émouvant pour moi, en tout cas.
Vous avez une question à poser au témoin, monsieur le procureur ?
Non, une remarque simplement, je trouve que cet hommage à monsieur Léo Zitrone est complètement déplacé dans l'enceinte de ce tribunal. Ou alors, j'ai rien compris.
Maître Rigaud ?
Un soir, si quand vous en aurez marre, vous n'avez qu'à dire Monsieur Rigaud, ça me fera de la pub.
Bien, la Cour remercie Boris Santeff de ce témoignage. Et donc, rendez-vous le 31 janvier à Agen. Et être à Agen le 31 janvier, ça va être quelque chose. C'est rare.
Il va être malade.
Nous allons faire entrer maintenant le témoin suivant, huissier.
Oui, eh bien, nous appelons Yves Simon.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Vite.
Simon, Yves, ah oui, il est l'heure. Auteur. Une trentaine d'années.
Une trentaine d'années. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, levez la main droite et dites je le jure.
Sans haine, sans crainte et la vérité.
Bien, vous avez eu à connaître le prévenu dans quelles circonstances, Yves Simon ?
Je l'ai rencontré à quelques occasions de chanteur, c'est-à-dire dans des émissions de télévision, de radio. Je l'ai vu en public. Je l'ai vu en public à l'Olympia, accompagné par Paul Castagnier au piano.
Vous avez eu à subir son influence ?
Eh bien non, parce que Léo Ferré, je l'ai aimé quand j'avais 25 ans ou 20 ans, pas avant. Donc j'aime bien Léo Ferré d'aujourd'hui, je l'aime bien nouvelle manière, je veux dire au pluriel.
Qu'est-ce que vous appelez Léo Ferré nouvelle manière ?
Parce que c'est quelqu'un qui m'a épaté tout le temps, à chaque année, chaque deux ans. C'est quelqu'un qui casse les moules d'avant pour prendre des moules nouveaux, puis les casser ensuite et puis en refaire des nouveaux. Je crois que c'est le propre des gens qui créent des choses, qui inventent, qui cherchent, qui ne se contentent pas de vieilles chaussures et dans lesquelles il fait bonsoir.
C'était dire de vieilles moules.
On ne tutoie pas le témoin, s'il vous plaît.
Mais il est là toutes les semaines. Non. Je finis par l'aimer. Ça tâche.
Que pensez-vous des chefs d'inculpation portés contre...
C'est quoi ? Subversion, hein, déjà. Oui. Je pense que tout le monde est dans l'assistance à applaudir. Je crois qu'il a bien raison et j'espère qu'il continue, surtout. Et ce que je viens de dire, je pense, c'est qu'il continue. La subversion, c'est toujours de dire des choses nouvelles. C'est la nouveauté, c'est des mots qui n'existaient pas avant, c'est des idées qui n'existaient pas avant, c'est des notes de musique qui n'existaient pas avant. Ce qui me surprend chez ce poète que nous avons en face de nous, chez Léo Ferré, c'est qu'il n'est pas là où on l'attend. Je dis, un jour, j'étais le voir à l'Olympia.
Il était à Bobino. Imbécile.
Vous vous taisez une minute.
Ne dites pas minute au procureur. Ça lui rappelle des bons souvenirs. Continuez.
Qu'est-ce qu'on lui fait ?
Continuez.
Oui, non, il était là. Il était donc bien à l'Olympia. Il avait un contrat qui devait honorer près de M. Cocatrix. Donc, il était là cette fois. Et il était donc avec Castagnier, comme je disais tout à l'heure. Et je connaissais les disques, par exemple, qui m'avaient intéressé, comme les disques avec un groupe de jazz rock, duquel on a parlé tout à l'heure, Zoo. Et là, je vois un type avec un piano. C'était différent. Après, j'ai écouté des disques où il est avec un grand orchestre. Ça m'a encore surpris. Je me dis, mais où il va ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Où il va ? Et chaque fois, c'est surprenant. Je suis surpris, j'aime bien ça. Il y a tellement peu de gens qui surprennent.
Eh bien, on va écouter un témoignage en musique de M. Yves Simon.
Il y a plein de mots d'amour et de souffrance dans ton cerveau. Il y a plein de mots qui restent enfouis tout au fond de ta peau. On t'a tellement appris à écouter que tu ne sais plus comment faire pour parler. On t'a tellement appris à écouter que tu ne sais plus comment faire pour parler. Y a plein de villes et de néons qui passent devant ta vie. La poussière des camions qui filent sur les pistes d'Asie. On t'a tellement appris à ne pas bouger que tu ne sais plus comment faire pour marcher. On t'a tellement appris à ne pas bouger que tu ne sais plus comment faire pour marcher. Y a plein de tendresse et d'amour dans tes bras, des caresses que t'inventes et que tu ne donnes pas. On t'a tellement appris à tout garder que tu ne sais plus comment faire pour aimer. On t'a tellement appris à tout garder que tu ne sais plus comment faire pour aimer. Y a plein de refus dans ton corps et dans tes yeux, plein de révoltes qui voudraient dire non, je suis pas heureux. On t'a tellement appris à accepter que tu ne sais plus comment refuser. On t'a tellement appris à accepter que tu ne sais plus comment refuser. La, 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 la.
Yves Simon qui sortira un nouvel album fin janvier, début février. Une question de monsieur le procureur.
Justement, oui. Yves Simon, je voudrais savoir si vous chantez que les gens tapent dans leurs mains. Est-ce que ça vous réveille?
Ça me donne envie de continuer.
La cour remercie le témoin Yves Simon. Que gronde la voix de la société, celle de la nation, de l'État. Et tant que la vengeance tombe sur la tête du coupable et même de l'innocent. Voici l'implacable réquisitoire du procureur général de la République des proches françaises.
Monsieur le public, président chéri. Ça change.
Pas dans tout le monde.
Mon âme est sombre, monsieur le président, aujourd'hui.
Oh oui.
Oui. Oh, noirceur insondable, des lugubres abysses où nos pensées amères errent à l'infini vers l'inconnu morbide, où stagnent les damnés et nos frères, que la camarde inéluctable et glauque a tiré par les pieds vers l'infernal séjour des douleurs éternelles.
Arrêtez-le.
C'est de vous?
Non, c'était Hommage à Lamartine, ou Les Romantiques, pourquoi faire, une évocation historique d'André Abbott et Costello, diffusée par France Culture dans le cadre des échanges culturels franco-monégasques, je ne dis pas ça pour vous, monsieur Fer, avec les récitants, monsieur Pierre Dux de la Comédie Française, monsieur Pierre Desproges, des Jeux de 20h, avec Yves Saint-Martin dans le rôle de Lamartine, Dean Martin dans le rôle de Saint-Martin, avec la participation exceptionnelle de monseigneur Ducombourget dans le rôle du lac du même nom, et de Claude Villers dans le rôle des contreforts alpins. Les robes d'Alphonse de Lamartine sont de Pierre Cardin et monsieur Yves Saint-Martin est coiffé au poteau par Cagneuse de mes genoux qui revient très fort dans la dernière ligne droite. Première, une de mer, deuxième, roquépine, troisième, Cagneuse de mes genoux, un tiercé qui devrait rapporter gros à quelques-uns, tandis que 99% des autres l'auront dans le cul comme chaque dimanche. Ici André Théron, mais si Théron t'es bourré, à vous les studios. Oui, monsieur le président, mon âme est sombre. C'est ce que je disais quand j'ai été interrompu par moi-même une fois de plus. Je me prie de m'excuser. Et l'angoisse m'étreint électrique, car il faut vivre avec son temps.
Oh, celle-là, elle est dure.
Elle est dure.
pas de réflexion.
Justement, à propos de train, je me suis aperçu l'autre jour que j'avais pris un sacré coup de vieux. Je dis pas ça pour vous, Léo Ferré. J'étais dans mon bureau, en train d'écrire un essai politique sur le thème « Vaut-il mieux être anarchiste, monégasque ou communiste au Chili ?» Je dis pas ça pour vous, hein, c'est le truc. Comme ma plus jeune fille qui va sur ses 3 ans et demi, sans cesser de pisser dans sa culotte, la garce, entre dans mon bureau et me dit « Papa, fais-moi le train ». Oui, elle me tutoie depuis quelque temps, ça doit correspondre au relâchement des mœurs consécutives à la candidature de Coluche. Alors elle me dit « Papa, fais-moi le train ». Non, 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 j'ai pas le temps, j'ai du boulot, assiste pas. S'il te plaît, mon papa. Bon, d'accord. Alors je me lève et je me mets à faire le tour de la pièce entre-temps, tout en faisant tchou, 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 tchou. Et alors la petite fille de 3 ans et demi me regarde, de cet air à la fois incrédule et réprobateur, quoique légèrement compatissant, qu'on réserve aux handicapés mentaux légers quand ils font des bêtises, et elle me dit « Mais papa, ma parole, t'as jamais vu un train ? Un train, ça fait pas tchou, 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 ça fait vrrr. » Et voilà. Et voilà, il faut vous y faire, mes frères, vous tous qui avez plus de 30 ans, la machine à vapeur, Verdun, les Beatles et les Wimpy, c'est la préhistoire. Nous n'irons plus au bois, les petits trains sont cassés, les vieilles locaux de papa finissent de rouiller sans bruit, couchés les unes sur les autres au creux des carrières interdites, comme les vieux mâles usés des cimetières des éléphants.
Ah, quand même.
Et maintenant, cette enflure de Goldorak prend le train corail aseptisé avec composteur obligatoire et sandwich à la merde. Ah, t'as raison, Simone, les chemins de fer, c'est comme la nostalgie, c'est plus comme avant. Dire que tout ce qui nous reste des années 50, c'est Léo Ferré et le jeu des 1000 francs, monsieur le président. Vous me direz, t'as qu'à prendre la voiture. Mais c'est dangereux, la voiture. L'autre jour, avec mon très cher ami et confrère Louis Rego, on a failli se tuer. C'est pas moi qui conduisais, je sais pas. J'avoue, je sais pas, on m'a forcé à passer mon permis quand j'étais troufion, grâce à quoi j'ai pu tuer autant d'OAS que de Félaga pendant la guerre d'Algérie. Mais depuis, je ne conduis plus, car je suis atteint de dyslexie autoroutière paraschizophrénique, c'est-à-dire que je suis encore plus con en voiture qu'à pied.
Ce qui n'est pas peu dire.
Non, c'est pas peu dire.
Oh là là.
Tout le monde ici est un peu taré. Je ne dis pas ça pour vous, Léo Félé.
Vous le dites rien pour Léo Ferré, alors.
Si moi, je suis dyslexique, le président, lui, est atteint de maxipotatose, c'est-à-dire qu'il en a gros sur la patate. Et Louis Rego est mal polyglotte et vaxiphone. Mal polyglotte, ça veut dire qu'il sait dire cacaboudin en latin et en portugais. Et vaxiphone, parce qu'il chante comme une vache. Je ne parle même pas de cette pauvre Monique Desbarba qui souffre de physiophono-ficusophobie. C'est une maladie rare. C'est-à-dire que quand elle chante, elle fait des grimaces tellement horribles que ça fait faner les plantes vertes. Je dis pas ça pour vous, Léo Ferré. Donc, nous roulions paisiblement, Louis et moi, vers les potes du bois de Boulogne. Quand on voit arriver en face de nous un convoyeur de fond. Un convoyeur de fond, c'est pas un scaphandrier débile qui a dit sous l'eau, non. Et cet abruti de convoyeur de fond, il était bourré de pognon, mais il restait engagé à gauche. Je dis pas ça pour vous. Voilà. Alors, on l'a évité de justesse, mais on n'a pas pu éviter Denis Fab qui arrivait en face, au volant de sa Mini. La Mini est allée s'écraser dans un arbre. Malheureusement, Denis Fab n'a rien eu. Car l'arbre l'avait reconnu, il a eu le réflexe de reculer de 10 mètres en arrière en la voyant passer sur lui. Faut dire que c'était un arbrisseau de la famille des vignes vierges et qui voulait le rester. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, le grand Peter Ustinov a dit « Je plains les gens petits, ils sont les derniers à savoir quand il pleut. » Aussi, nous ne devons pas nous-mêmes être petits. Soyons grands, soyons généreux, soyons nobles. Nous devons épargner Léo Félé, puisque, comme il l'a dit lui-même, il est la seule institution qu'il respecte. Et c'est vrai d'ailleurs qu'il n'y a pas d'autre chanteur que lui en France. C'est pas Hervé Christiani, Alain Bachung, Brassens, Brel, Ferrat, Le Forestier, Souchon, Jonas ou Balavoine ou Yvan Dautin qui diront le contraire. Je termine.
La parole est à la Défense, Maître Rego.
Merci, Monsieur le Président. Amis de la justice et des chanteurs, bonjour. Vous pouvez y aller. De quoi est-ce qu'on accuse mon client là ?
Écoutez...
De tentatives de subversion et incitation à la révolte parce qu'il dit des gros mots quand il est en colère. Voilà, dans quel état ils sont les moyens d'expression ? Un mec passe par là, il dit merde dans un micro parce qu'il a mal au pied. Hop, celui-là, c'est un anarchiste. Bon, d'abord, mon client Ferré n'a même pas sa carte d'anarchiste. Il a été recalé à l'examen. En dictée, il a écrit « ni Dieu, ni maître » en un seul mot. Et il a fait un pâté et plein de ratures. Et les anarchistes sont très sérieux sur l'orthographe. Sinon, c'est l'anarchie. Mais, question à 10 francs. Qu'est-ce que c'est l'anarchie? C'est une doctrine philosophique fondée par Albert Nanard en 1812. Je ne suis pas sûr de la date. Tout d'abord, on a appelé ce mouvement l'albertchie. Mais comme ça faisait vulgaire, on a opté pour l'anarchie. Que proposait la doctrine anarchiste? Premier, pas de Dieu, pas de Jésus, pas de Bouddha non plus. Deuxième, pas de maître, que des centimètres. Troisième, un point, c'est tout. C'est une philosophie qui a eu énormément de succès, d'un côté à cause de sa simplicité, que de règles, et d'un autre côté parce que c'était la seule philosophie valable de son propre point de vue. Et là, on trouve une caractéristique commune à toutes les philos, chacune est la meilleure. Mais rappelons en deux mots la vie de cet homme extraordinaire que fut Albert Nanard. Après avoir été abandonné par sa femme à l'âge de 13 ans, il fut élevé par sa belle-mère, qu'il appelait Mamie. Il découvre alors que tout ce qui était marqué dans les livres n'était pas vrai. Du coup, Nanard en achète d'autres qu'il y en cachette aux toilettes. Certains spécialistes prétendent même que l'étymologie du mot anarchie vient de là. Puis c'est la période où Albert Nanard rencontre des philosophes concurrents. À Marx, il dit « J'aime bien ce que tu fais, mais tu es trop bourgeois. Le collectivisme, c'est la partouze et les ouvriers n'ont pas le temps. » Il dira à Freud « J'aime bien ce que tu fais, mais tu devrais tirer plus souvent, tu serais moins nerveux déjà. Essaye avec ta mère pour voir. » Il confiera à Napoléon « J'aime bien ce que tu fais à ta grosse, mais j'aime pas ce que tu fais à Austerlitz. » Puis il dit à Jésus « Fils, j'aime bien ce que tu fais, ta mère c'est une sainte femme, mais ton père c'est un mauvais. » À la fin de sa vie, Albert Nanard trouve bêtement la mort dans un accident de bistrot. Le chauffeur du bistrot était bourré. Pendant son transfert à l'hôpital, dans une brouette, il a refusé l'ambulance à cause de ses convictions. Il continuait de parler. « Surtout, ne vous gourez pas. Les anarchistes de gauche et les anarchistes de droite ne fréquentent pas les mêmes bistrots. » Ces déclarations d'Albert Nanard, il faut les prendre avec beaucoup de précaution. Il était morant et mal installé dans sa brouette. N'empêche que l'enseignement anarchiste a profondément marqué notre époque. Qui ne s'est pas fait traiter d'anarchiste au moins une fois dans sa vie?
Moi.
Il y a que toi. Et l'anarchiste, tu baisses ton électrophone. Et tu bois ton jus d'orange avec ton camembert. Anarchiste, va. C'est agréable de se faire traiter d'anarchiste de temps en temps, mais systématiquement, comme mon client Ferré, ça doit être insupportable. D'ailleurs, c'est pas par hasard s'il est devenu insupportable. Il dit des gros mots devant les enfants, il dit que les gens mentent quand ils disent qu'ils sont heureux, il dit qu'il est un chien et qu'il faut pas qu'on lui apprenne le caniveau. Il dit que les gens s'aiment mollement, il dit que la guerre ça fait mal et que ça vient de nous et que c'est pas beau et que c'est pas fini. Bref, il râle et il a raison, parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Je sais pas quoi exactement, mais ça va pas bien. Et le public de Léo Ferré, on est conscient aussi. Je l'ai vu une fois à la fête de la bière à Tunis. Non, à Maubeuge. Devant 5000 mecs bourrés. Il était accompagné par un pianiste et tout. Quand il est arrivé sur scène, il y avait un brouhaha incroyable dans le chapiteau. C'était normal, 5000 canettes de bière qui discutaient. Ferré leur a dit, vos gueules, vous écoutez ou merde? Silence de mort aussitôt. Quel talent. Et puis les gens l'écoutaient dans la mesure de leur disponibilité, bien sûr. Et dans ses chansons, à chaque fois qu'il disait « bourgeois », la salle faisait « Ouh, les bourgeois aux chiottes !» Ou s'il disait « les salauds, le pouvoir », la salle « Ouais, ni Dieu ni maître, ouais, sauf maître Cantaire !» À un moment, il leur a dit « Ou vous arrêtez vos conneries, ou j'arrête. » La salle « Oh, vas-y, Ferré, vas-y, Ferré, vas-y. » Comme quoi, le français a un côté anarchiste du moment qu'il y a de la bière et de la choucroute dans l'air. J'ai fini, après moi, la parole sera à l'anarchiste Claude Villers.
Le jury va maintenant délibérer et pendant cette délibération, nous allons demander à Léo Ferré de bien vouloir aller au piano et de nous donner à entendre une chanson qui a été écrite il y a déjà quelques années, mais à laquelle vous avez peut-être rajouté quelques paroles, vous avez réactualisé. Léo Ferré.
Des cadillacs, des ombrelles, de l'albuplast et des bretelles, de faux dollars, de vrais bijoux, il y en a vraiment pour tous les goûts. Des oraisons pour dentifrice et des chiens nourris qui parlent anglais. Et les putains à l'exercice avec leurs yeux qui font des frais. Des faux tableaux qui font la gueule et puis des vrais qui leur en veulent. Des accordéons déployés qui soufflent un peu avant de gueuler. Des filles en fleurs, des fleurs nouvelles illustrées à bonne d'enfants. Et des enfants qui font les belles devant des mecs bourrés d'argent. Vitrines de l'avenue font un vacarme dans les cœurs à faire se lever le bonheur. Des fois qui pousseraient dans les rues les faux poètes qu'on affiche et qui se meurent à les mystiches, les vedettes à nez nouveau. Parole, Ferré Léo. Les prix concours que l'on égorge, les gorges chaudes pour la voix, les coupes-fils et les soutiens-gorge, avec la notice d'emploi des chansons mortes dans la cire et des pick-up pour les traduire. Micro-sillon, Bayeux-Corneille, c'est tout Mozart, dans une bouteille, le sang qui coule plein à la une et qui se caille aux mots croisés. François, le monde et la fortune, devant des mains qu'on pas bouffé. Les vitrines de l'avenue font un vacarme aux alentours à faire se lever l'amour. Des fois qu'on le vendrait au surplus, et chez Mammouth, Chalon-sur-Saône, France, janvier 1978, une fille de 15 ans avec ses deux sœurs plus jeunes qu'elle va au Mammouth. Elle rentre, elle pique un soutien-gorge. En sortant, le flic du Mammouth qui l'a vu lui pique à son tour le soutien-gorge et lui dit: je garde tes deux sœurs avec moi, tu vas chercher ton papa à la maison. Elle n'a pas été chercher son papa à la maison, elle est allée se noyer. Mammouth écrase les prix et les enfants. Des Pères Noël, grandeur nature, qui ne descendent plus que pour les parents, pendant que les gosses jouent les doublures, en attendant d'avoir 20 ans. Toupie qui tourne au quart de tour, bonbon fondant, bonheur du jour, et ces mômes qu'en ont plein les bras, aller chez la vitrine comme ça, des soldats de plomb qui font du zèle, des poupées qui font la vaisselle, regarde. Des soutiens-gorge en équilibre pour amuser les tout-petits. À l'intérieur, la vente est libre pour ceux qui s'ennuient dans la vie. Des merveilles qu'on peut pas toucher devant des mecs qui peuvent entrer. Mais entrez donc, mon petit. Les vitrines de l'avenue font un vacarme dans les yeux à rendre aveugle. Des fois qu'ils en auraient trop vu. Jambon Dior garantie Villette, des alcools avec étiquette, crème à raser les plus coriaces, où l'on m'étend le poil se lasse. La gaine qui fonce sous les caresses, le slip qui rit, le bac en caisse, l'escarpin qui use le pavé, les parfums qui sentent le péché, des falbalas pour la comtesse, des bandes en soie pour pas que ça blesse. Du chinchilla, de la toile écrue, il faut vêtir ceux qui sont nus, des poules au vert si vrai qu'ils pèlent, des vins si vieux qu'ils coulent gaga, des décorations qui étincellent devant des mecs qui n'en veulent pas. Les
vitrine de l'avenue. C'était pas à toi quand tu rêves et que tu fouilles à main perdue des lambeaux de désir qui lèvent.
Le jury a maintenant délibéré. Nous allons connaître son verdict. Léo Ferré, coupable ou non coupable?
Alors, Jean-Jacques Delabarre.
Coupé ou coupable?
Coupable. Lucien Loubet.
Un tel poète n'est pas coupable.
Pas coupable.
Communiste.
Daniel Coffre.
Coupable.
Coupable. Ariel Verlin.
Non coupable.
Non coupable. Alain Charles Ifri.
Non coupable.
Non coupable.
Merci. La Cour, après avoir écouté le jury, après en avoir délibéré, constatant que 3 des 5 jurés se prononcent pour la non-culpabilité de Léo Ferré, relaxe celui-ci des chefs d'accusation, bien qu'il ait plaidé coupable quand même tout à l'heure, et lui demande, usant de mon droit, après tout, de président, n'est-ce pas, de quand même s'acquitter d'une chanson, une chanson qui n'est pas de lui, et une chanson qu'il a choisie dans le répertoire de Charles Trenet, Léo Ferré chantant Charles Trenet.
Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse? Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mourant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre. Se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de nos beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il? Qui me poursuit sans cesse. bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Léo Ferré, merci. Vous êtes maintenant un homme libre, comme vous l'avez toujours été d'ailleurs, mais vous êtes acquitté par le tribunal des flagrants délires. Je voudrais dire que Léo Ferré, qui vient de terminer une tournée en France, va en commencer une autre à partir du 27 janvier jusqu'au 2 mars 1981, à travers la France et en Belgique. Et surtout, je voudrais rappeler que Léo Ferré cherche toujours un grand orchestre symphonique. Y a-t-il un grand orchestre symphonique dans la salle? Si oui, qu'il écrive à Maître Régaud, France Inter, les nouveaux grands orchestres symphoniques.
Merci, Président.
Il sera répondu.
Je reçois énormément de courriers.
L'audience est levée.
Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames, avec nous pas d'innocents, tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir, y a vraiment rien de pire que des flagrants délits.